RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
GG, bonjour à tous. La nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron. Lors d'un échange en Ariège avec des médecins étrangers, le président a qualifié hier donc de maboule ce qui nous explique qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel ?
On s'en fout pas.
Laura ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Petite phrase glissée hors caméra hein, qui vise sans le nommer l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui prône lui la stratégie du bras de fer hein, dans la diplomatie franco-algérienne. Alors le chef de l'État s'en est expliqué un peu plus tard dans la journée, écoutez.
Non, je ne vise personne. Non, non. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Je vise personne.
Bon, sauf que Bruno Retailleau l'a bien pris pour lui. Hein. Et il lui a répondu. Le président de LR parle d'un faux prétexte pour dissimuler les vrais problèmes. Il cite les OQTF, ceux que la France veut expulser, mais que l'Algérie refuse de reprendre, ou encore l'incarcération du journaliste Christophe Glaise. Jean-Loup, pourquoi tu t'en fous pas ?
Jean-Loup ?
Ah !
Vas-y.
Donc,
j'ai pas dit Jean-Loup.
Non, mais je ne m'en fous pas parce que, alors deux remarques.
On est maboule si on critique l'Algérie.
De quoi ? Non, bah justement, je trouve qu'Emmanuel Macron a eu une politique de conciliation et de la main tendue, et que cette politique à Alger a été interprétée comme une politique de soumission qu'elle n'a absolument pas payée, qu'elle a été totalement contre-productive, et que la France enchaîne humiliation sur humiliation. Ah bah oui, mais on y a encore un journaliste français en prison.
Christophe Glaise.
Voilà, il y a toujours la question des OQTF. Donc, moi, je pense qu'il faut une politique extrêmement ferme. Par contre, je pense qu'il faut une politique de la plus grande fermeté, sans provocation. Voilà. Fermeté sur le fond, sur les mesures qui sont prises, et silence radio, pas de déclaration, pas de provocation, parce que sinon, la population algérienne le prend pour elle et fait bloc autour du pouvoir. Donc, je pense, pas de provocation, pas de coup de menton, et pas de déclaration politique du no comment, par contre, extrême fermeté. Par exemple, sur les avoirs à Paris des dirigeants algériens, ce genre de choses.
Laura ?
Oui, bah, je vais être d'accord avec Jean-Loup pour une fois, ça c'est génial.
Ça te fait mal, on dirait.
Ouais, non, faut pas exagérer. Non,
je bombarderai pas l'Iran pour autant. Hein.
J'estime que ce qui fait le plus mal au monde en ce moment, c'est la diplomatie étrangère qui est mise aux yeux et aux vues de tous. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dites. Et encore une fois, je pense que Monsieur Retailleau ne s'en prenait pas aux Algériens, mais s'en prenait aux dirigeants algériens, ce qui est quand même deux choses qui sont complètement différentes. Effectivement, avec les dirigeants actuels algériens, il y a des choses compliquées à gérer, mais encore une fois, ce sont des choses à gérer entre dirigeants. Et de le mettre sur la place publique crée forcément, ça crée forcément des incompréhensions de la part des populations, des peuples, etc. Évidemment, qu'on ne peut pas se passer. Il y a une alliance qui est faite avec l'Algérie depuis des années. On ne peut pas faire sans l'Algérie. C'est un fait. C'est comme ça. Notre histoire est tellement intrinsèquement liée qu'il n'est plus possible de faire marche arrière. En revanche, la France doit quand même s'imposer de manière ferme, diplomatiquement, sur des choses qui ne vont pas aussi du tout avec l'Algérie.
Voilà, on peut quand même essayer d'avoir un langage de fermeté. Ça fait 60 ans et arrêter que la France soit instrumentalisée par le pouvoir algérien.
Si tu veux, la politique du paillasson,
je pense que Emmanuel Macron, une fois de plus,
moi, je pense que
il est à côté de la plaque. C'est pas une politique de maboule. On va pas se fâcher avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui est déjà fâchée avec nous, si tu veux.
Enfin, donc, simplement Macron, dire, il est méprisant avec toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui.
Ça ne se fait pas. Et essayer de faire son possible pour libérer Christophe Glaise, Kamel Daoud, ça a pris du temps. Pardon, Kamel Daoud, Boualem Sansal, ça a pris du temps. Rappelons Kamel Daoud, il vient d'être aussi condamné là par contumace avec une espèce de loi de censure algérienne qui est d'un autre temps. Donc, Monsieur le Président de la République, essayez de faire le nécessaire, faire ce qu'il faut pour qu'on arrête effectivement de se faire marcher dessus, quoi. C'est tout.
Oui, mais moi je pense qu'il y a deux choses. Ce que tu dis, c'est vrai, mais ça doit se faire. La diplomatie, c'est ce qui incarne la grandeur du politique et la manière dont Bruno Retailleau, il a étalé ça sur la place publique. Pourquoi ? Pour remettre encore sur la place le sujet de l'immigration des Algériens avec le fantôme de l'islam derrière. C'est-à-dire, on n'est pas dupe. Au bout d'un moment, on doit arrêter de faire semblant de ne pas comprendre les choses. Aujourd'hui, Bruno Retailleau a montré qu'il n'est pas un homme d'État. Parce que cette histoire diplomatique qui peut être très importante doit se faire dans le secret des bureaux politiques.
Complètement.
Il y a des personnes qui sont incarcérées. Il peut y avoir un problème avec les occupants. OQTF, oui, mais c'est pas en étalant ça, c'est pas en hystérisant le débat politique que ça va faire, comment dire, améliorer les choses. Parce que d'un côté, les Algériens se sentent insultés, et de l'autre côté, eh ben, ça enflamme encore le débat sur l'immigration, et c'est pas une bonne chose.
On enchaîne, Anaïs.
Le GG, c'était un vote très scruté hier soir. Le rapport sur l'audiovisuel public a donc été adopté de justesse à l'Assemblée après plus de 4 heures de débat. Il sera donc bien publié la semaine prochaine. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
Moi, je m'en fous.
Laura?
Je ne m'en fous pas.
Jean-Lou?
On s'en fout pas.
Rapport écrit par le député UDR, hein, Charles Alonc, la 12 voix contre 10, adopté donc, après donc 6 mois d'audition très très mouvementée et des polémiques à répétition.
Du côté de la gauche, on a dit que c'était un rapport, une vraie daube. Sacha Houlier dit que ce rapport est une honte et qu'il est le sceau de l'Assemblée nationale. Donc à partir de lundi prochain, on pourra savoir ce qu'il y a dedans. C'est surtout au rapporteur, hein, Charles Alonc, effectivement, qu'il s'en prenne. Laura?
Oui, bah alors que la gauche ne soit vent debout contre cette publication, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. On s'attaque quand même à leurs médias. Moi, je voudrais souligner quand même, je trouve l'hypocrisie de certains députés du Bloc central pour l'abstention. C'est-à-dire, il faut que ce soit publié parce que sinon ce serait une honte démocratique, mais on va voter l'abstention. En fait, c'est quoi? C'est on doit carter une partie de la gauche et les socialistes dans notre poche, parce que c'est, on l'a vu ces dernières années, c'est quand même eux qui font l'appui et le beau temps à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, pour dégommer cette gauche qui peut nous nuire aux prochaines élections, il faut que ce soit publié. Moi, c'est ça que je retiens de ce vote. Et j'étais sûre, honnêtement, que le rapport de Monsieur Alonc allait être voté, mais l'abstention, je trouve que ça devrait être interdit, l'abstention.
Jean-Loup?
Non, mais au 18e siècle, il y avait quelqu'un qui s'appelle un écrivain, Chamfort, qui disait en France, on persécute ceux qui sonnent le tocsin. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelqu'un, Charles Alonc, qui quand même se pose des questions assez légitimes sur la manière dont on utilise l'argent des Français, 4 milliards d'euros, sur des questions de gaspillage et de gabegie, hein, les suites d'hôtels à plusieurs milliers d'euros, les notes de taxi faramineuses, qui se posent aussi des questions sur les conflits d'intérêts. Pourquoi est-ce que des chaînes de télévision qui emploient de nombreux salariés ont besoin en plus d'externaliser, de déléguer à prix d'or à des boîtes de production extérieures 80% de leurs émissions? Enfin bref, ils se posent des questions assez légitimes. Mais du coup, ça devient lui le problème, ça devient lui la cible. Je suis un peu, je suis un peu surpris. On ferait mieux de tous se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour qu'il y ait moins de gaspillage d'argent public, pour que le service public de l'audiovisuel fonctionne mieux.
4 milliards quand même.
Ouais, 4 milliards. Et on compare ça souvent à la BBC anglaise, mais la BBC anglaise, en fait, 40% de ses recettes, c'est la publicité quand même. Alors que France Télévisions, c'est seulement 15% des recettes, la publicité.
Il faut quand même souligner que M. Alonc était contre la fermeture du service public.
Voilà, donc il n'est pas du tout pour la privatisation. Voilà. Il dit, moi, je veux sauver un service public qui est de l'audiovisuel qui est à moitié en faillite. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses préconisations. Mais apparemment, non, on n'a même pas le droit de signaler qu'il y a un problème.
Abel?
Il s'en fout, on enchaîne.
Ah bon ?
On finit.
Et puis, les GG, le marché du livre neuf souffre, hein, et c'est le groupe Gibert qui en fait les frais. Ce poids lourd de la librairie indépendante en France demande son placement redressement judiciaire. Présent dans 12 villes avec 16 boutiques, l'enseigne fondée en 1886 joue donc sa survie. On s'en fout ou pas, Laura?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Abel?
Bah, c'est un fleuron de la culture française. C'est ce qui permettait à nombre de jeunes, à nombre d'étudiants d'avoir accès aux livres, en fait.
Livre d'occasion.
Avec ce quartier mythique à Saint-Michel, justement, où je pense qu'on est tous allés. Et c'est vrai que c'est une immense tristesse de voir ça. Et quelque part, même si c'est un problème économique, mais c'est encore un signe, j'ai envie de dire, sans être superstitieux, bah, du déclin français, en fait. Parce que jamais on n'aurait pu imaginer, jamais je n'aurais pu imaginer, lorsque j'étais étudiant, qu'une enseigne comme celle-ci puisse un jour être sous la menace d'une fermeture définitive.
Laura?
Oui, moi j'ai acheté tous mes livres d'école.
Tu les achètes ailleurs maintenant.
Chez Gibert Jeune. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est déjà, malheureusement, c'est que maintenant tu... Il faut pas les librairies. Non, je suis désolée. La librairie, il n'y a qu'un seul moyen de s'élever quand on n'a pas les moyens.
Oui, bah, T'es pas obligé quand de trouver des... tout est bouquin d'occasion chez Gilbert.
Non, mais quand
c'est triste,
oui,
mais bon, c'est une ancienne qui disparaît,
si son redressement judiciaire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et je suis désolée. La seule manière de t'élever intellectuellement, de voyager, de t'ouvrir l'esprit quand t'as pas les moyens de traverser le monde, c'est les livres. On doit soutenir...
Et le contact physique avec le papier.
Ben oui, ben.
On est obligé.
Ben tu les achètes ailleurs. Jean-Loup, 20 secondes.
Oui, non, moi j'ai de très nombreux souvenirs chez Gilbert, et c'est triste à la fois pour des raisons culturelles et pour l'identité du quartier. Ou d'ailleurs, beaucoup de librairies ont déjà fermé, ont été remplacées par d'atroces boutiques de fringues.
Mais tes livres, tu peux les acheter en supermarché aussi.
Mais on a compris, Alain.